Bon, ce matin, est-ce que nous pouvons acclamer, pousser des cris de joie pour la gloire de ce Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments combien merveilleux que tu nous donnes d'être encore dans ta présence. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de nous tenir devant ton peuple. Une grande responsabilité, Seigneur. Nous te prions, Père, de nous faire du bien, Seigneur. Et nous nous soumettons à toi comme un canal, comme un instrument. Seigneur, ô Dieu, pour atteindre tes objectifs à toi. Seigneur, glorifie ton nom et réponds, Seigneur, aux attentes du cœur éternel. Et toi qui connais le réel besoin du cœur, Seigneur, parle à ton peuple, sanctifie ces moments. Qu'à toi seul revienne toute la gloire, dans le précieux et beau nom de Jésus, notre Seigneur. Nous prions, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort le Seigneur ce matin, en ce dimanche, où nous voulons continuer à célébrer le ressuscité? Il est merveilleux. Gloire soit rendue à notre Dieu pour ce matin. Nous vous saluons donc tous au nom précieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et j'aimerais en ce moment vous transmettre aussi les salutations de votre église et fille Laborne Kimbanseke. Tous les peuples de Dieu vous saluent au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, mais aussi particulièrement de mon épouse qui n'est pas là, qui m'accompagne à chaque fois que je viens ici. Elle a accouché, nous avons un bébé, nous bénissons le Seigneur pour bébé Kadosh qui est venu. Gloire à Dieu. Et particulièrement, je ne peux m'en passer de dire un grand merci à mon père et à mon coach, le pasteur Joseph Bondo, pour cette marque de confiance qui ne cesse de renouveler. Et qu'il soit béni là où il est pour la mission. Amen, amen, amen. Et je salue aussi tous mes papas et particulièrement mon aîné, le pasteur Kalala, que je vois que le Seigneur les bénisse. Je ne savais pas que j'allais les trouver ici. Amen, amen. Et pour vous tous, laissez que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fasse du bien au travers de ces messages. Amen, amen. Est-ce qu'on peut lire la parole de Dieu ce matin? Je nous propose trois textes de longue lecture, mais ça vaut la peine et ça va nous aider pour le message de ce matin. Le premier, c'est dans le livre de Genèse au chapitre 45. Genèse 45 à partir du verset 25e jusqu'au verset 28. Genèse 45, 25 à 28. Le deuxième passage, nous lirons pour ceux qui écrivent Luc chapitre 24, Luc 24, 17 à 25, Luc 24, 17 à 25. Et les derniers passages, nous lirons Jean chapitre 11, le verset 38. On peut aller jusqu'au verset 43. Genèse 45, 25. Ils montèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan, auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne les croyait pas. Et ils lui rapportèrent toutes les paroles, soulignées, ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, c'est assez, Joseph, mon fils, vite encore, j'irai et je le verrai avant que je meure. Amen. Luc 24, 17. Il leur dit, de quoi vous vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem? Ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci. Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour les faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'on dit le prophète. Enfin, Jean 11, à partir de 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur ce matin? Alors que nous continuons dans cette chaleur de la grande fête de Pâques, nous voulons parler de la résurrection de Christ et de son impact sur notre foi. Je prendrai donc comme thème ce matin ce que la résurrection nous enseigne. Ce que la résurrection nous enseigne. Comme nous le savons, la résurrection, c'est le fait de revenir à la vie après la mort. De son sens originel du grec anastasis, tout simplement retour à la vie, ou c'est relevé, c'est lever de nouveau. Nous voulons parler donc de ce que la résurrection nous enseigne. La Bible nous donne bien des cas, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Parlons des fils de la veuve de Sarepta dans l'Ancien Testament, des fils de la Tsunamite avec le prophète Élisée. On nous parle aussi de cet homme qui a touché les ossements du prophète Élisée, les quelques cas que nous avons de résurrection. Et dans le Nouveau Testament, comme vous le savez, il y a aussi des cas qui nous parlent de la résurrection. Le fils de la veuve de Naïn, qui a rencontré les cortèges, Jésus qui a rencontré les cortèges et ses fils étaient donc revenus à la vie. Et nous avons aussi les cas de ses fils de Jaïrus, les cas de Lazare, les cas de Tychus, mais particulièrement les cas de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et bien même, le cas de Lazare, oui, le cas de Jésus, le seul à rester vivant après sa résurrection, car on peut le comprendre que tous ou les autres ont de nouveau connu la mort, mais le Seigneur, le roi de gloire que nous adorons ce matin, est vivant. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le texte que nous venons de lire à l'introduction de notre étude de ce matin nous parle tous du retour à la vie. Et là, nous y trouvons donc des riches enseignements et leçons pour notre foi. Et le texte que nous venons de lire dans Genèse 46 nous parle de l'histoire de Jacob et de son fils Joseph. Joseph, qui était le plus aimé de son père, et lui a confectionné une tunique différente de ses frères. Et à cause de la haine et de la jalousie, nous connaissons l'histoire, Joseph a été vendu et il va aller en Égypte et considéré comme mort. Vous vous rappelez de la scène, c'est quand il a monté ses frères, ils ont tué un animal parce que l'un d'eux ne voulait pas qu'on puisse faire couler le sang de leurs frères. Et ils ont pris l'habit de leurs frères et ils ont imbibé de sang pour aller présenter à leur père Jacob, qui a en fait cru à la mort de son fils. Et pendant tout ce temps, Jacob était en train de faire son deuil. Il continuait à pleurer son fils, sachant qu'il n'existait plus. Nous allons revenir sur ces textes. Le deuxième passage que nous venons de lire nous parle de la résurrection, des événements liés à la résurrection de Christ, avec ses disciples après la mort de Christ, découragés, abattus, et qui étaient en train de retourner dans leur village. La Bible nous parle sur le chemin d'Emmaüs, et ils étaient donc abattus, attristés. Enfin, le troisième, nous parlons de l'histoire de Lazare, que Jésus a ressuscité. Mais le socle de notre message ce matin, c'est la résurrection de Christ, qui est même le fondement de notre foi. Car si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait vaine. Alléluia. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 12e, « Or, Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment? 1 Corinthiens chapitre 15 à partir de 12. Je disais, or si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins à l'égard de notre Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité, qui a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, et vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, parce que Jésus est ressuscité. Alléluia. Le message de la résurrection de Christ est donc le fondement de notre foi. Tout ce qu'on peut faire ici, chanter, glorifier Dieu, prêcher, évangéliser, si Christ n'était pas ressuscité, notre message n'aurait pas d'impact. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous devons célébrer cette fête. Et nous devons, bien-aimés, toujours nous rappeler qu'un jour, il était mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il vit encore. Alléluia. Et les deux grandes vérités importantes que j'aimerais me servir comme base avant de commencer à élever ces murs avec ces quelques vérités. Mais le fondement de tout chrétien, nous devons comprendre premièrement que la résurrection de Christ est la plus grande victoire sur l'ennemi Satan, sur la mort et sur le péché. Alléluia. La résurrection de Christ est la plus grande victoire sur l'ennemi Satan, sur la mort et sur le péché. Ça doit être une pensée qui doit nous armer chaque fois, alors que nous marchons avec le Seigneur, que parce qu'il était mort et qu'il était ressuscité, il a vaincu l'ennemi Satan, il a vaincu la mort et il a vaincu le péché. Amen, amen. Et cette victoire, bien-aimé dans le Seigneur, doit nous accompagner, doit nous armer, et peu importe les temps, les circonstances, cela, bien-aimé, doit revenir à nous de savoir que Christ a vaincu la mort. Il a vaincu Satan. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, que nous venons de lire le verset 53, « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. » 1 Corinthiens 15, 53. « Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. » Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La résurrection de Christ, frères et sœurs, est la plus grande victoire sur l'ennemi Satan et sur la mort. On peut tout nous voler, mais qu'on ne puisse pas nous voler cette pensée. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu, cette image de la croix, de la résurrection, doit toujours nous accompagner. Dans des moments où le diable s'élève, nous devons lui rappeler que tu as été vaincu. Quand la mort, la maladie, le péché s'élève, la tentation s'élève, nous devons nous armer de cette pensée qu'il a été vaincu. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est en train de suivre un match ou un combat en différé. Il n'y a plus de suspense pour lui parce qu'il connaît déjà le score de ses matchs. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas, parce que Christ a déjà remporté la victoire. Tu ne seras pas stressé, parce que tu connais déjà le résultat. Tu connais déjà la fin de ce combat. Celui qui n'a pas encore regardé ce film peut les regarder avec beaucoup de suspense. Mais celui qui a déjà regardé ce film, il les regardera tout calme et dans la quiétude, parce qu'il connaît la fin. Or, notre Dieu, à la croix, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu Satan. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vaincu Satan. Tu as raison d'acclamer la parole de Dieu. Alléluia. La deuxième base solide que j'aimerais planter ce matin, c'est que Christ ressuscité vit et agit. Alléluia. Il n'est pas seulement ressuscité simplement. Non, bien aimé dans le Seigneur, bien plus. Il est ressuscité, il vit et il agit. J'aime ce passage de Romains au chapitre 8, le verset 34e. La Bible dit, qui le condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est ressuscité, il vit et il agit. Oui, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et ce matin, j'aimerais donc nous partager les quelques grandes leçons de la résurrection. Ce que la résurrection nous enseigne, en dehors de ces deux bases que je viens de poser. La première leçon que j'aimerais que nous puissions tirer sur la résurrection de Christ et sur tous ces passages et entrer à la résurrection que nous venons de lire, c'est que premièrement, la résurrection nous enseigne sur la puissance et la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Alléluia. La puissance et la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Quand nous lisons les textes liés à la résurrection, et particulièrement à la résurrection de Christ, comme nous avons été bénis, je suivais le message du pasteur le dimanche passé. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la fidélité et la puissance de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses. Nous pouvons voir comment Dieu a manifesté sa puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts, mais aussi sa puissance manifestée dans tous ces cas de résurrection que nous avons dans la parole de Dieu. Chose impossible, humainement parlant, scientifiquement parlant, les hommes sont confondus parce que là, Dieu a manifesté sa puissance par la résurrection de Christ. Et bien aimé, cela doit être une vérité ancrée en nous. Dans Luc chapitre 24, le verset 44 jusqu'au verset 46e, Luc 24, je disais 44 à 46, puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Alléluia. Tout cela a été écrit dans la parole de Dieu. Jésus parle des prophètes, il parle de Moïse, il parle des psaumes, des passages qui ont trait à sa mort mais aussi à sa résurrection. Des passages qui datent des siècles et des siècles en avant. On a même oublié certainement ces passages. Mais quand Dieu fait la promesse, bien-aimé, il n'oublie jamais. Toi, tu peux oublier, mais Dieu n'oublie jamais ce qu'il a promis. Et ce qu'il a promis finit toujours par s'accomplir, peu importe le temps. Alléluia. Le temps s'était écroulé, mais la promesse de Dieu était restée fidèle. Et au temps convenable, la puissance de Dieu est venue ressusciter cette promesse afin que cela s'accomplisse. Et Jésus va rappeler à ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, « Ô homme incrédule, ne savez-vous pas ce qui a été écrit au sujet de cet homme que vous parlez ?» Ce que j'aime, ils étaient en train de parler de Jésus à Jésus sans le savoir. Alléluia. Oh bien-aimé, la puissance de la résurrection. Nous voyons la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Il est fidèle. Alors, quelqu'un a dit, il a le moyen de sa politique. Ce qu'il a promis, il est capable de le faire. Peu importe les temps. Les temps étaient passés, mais la résurrection nous enseigne sur la puissance et la fidélité de Dieu dans ses promesses. Bien-aimé, s'il a fait avec Christ, bien-aimé, il le fera et il est capable de le faire aussi avec toi. Fidèle dans ses promesses. La même chose avec Jacob et Joseph. Quand Joseph racontait tous ses rêves, la Bible dit son père l'avait sérieusement réprimandé.
Mais la Bible dit que son père avait gardé les souvenirs de ces choses dans son cœur. C'est-à-dire qu'il savait pertinemment bien que cet enfant est en train de parler de la part de Dieu. Ce qu'il est en train de dire en réalité, c'est une vision qui vient de Dieu. Je verrai certainement cela. Mais après un temps, on a annoncé à Jacob que son fils était mort. Il a vu l'épreuve avec la tunique imbibée de sang. Il a vu cela. Il ne croyait plus à rien. Si dans le cœur de Jacob était resté froid, mais bien aimé là au ciel, les promesses de Dieu pour l'accomplissement des rêves de Jacob restaient encore intact. Alléluia. Jacob, tu ne crois plus à rien. Mais cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de ce Dieu qui a fait la promesse. Cela dépend de ce Dieu qui a donné à ce jeune homme des rêves. Cela ne dépend pas de tes dispositions. Cela dépend de ce Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les circonstances, peu importe les temps, ce que Dieu a décidé de le faire, il est capable de le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. La deuxième chose que nous avons comme enseignement dans cette histoire sur la résurrection, c'est que la résurrection de Christ nous enseigne sur un nouveau départ. Alléluia. La résurrection de Christ nous enseigne sur un nouveau départ. Souvenez-vous de Pierre, lui qui a renié Christ. Une femme pouvait se présenter devant Pierre et lui dire, mais toi aussi tu étais avec cet homme. Pierre a renié Christ avec imprécation et dire, non, je ne le connais pas. À trois reprises et attristé, il va se restreindre dans un coin, réfléchissant même comment il peut retrouver son job de pêcheur de poissons. Quelques temps s'écoulèrent. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, il était en train de réfléchir sur ces choses. Mais subitement, paf, la nouvelle tombe. Quelques femmes qui se sont précipitées très tôt le matin, ils vont constater que le tombeau était vide. Et l'ange va leur donner le message de la résurrection. Et il va leur dire, allez dire aux disciples, mais à Pierre particulièrement, que je suis ressuscité. Alléluia. Oh, j'aime l'attitude de Pierre. Bien aimé, la Bible dit, Pierre va courir vers les tombeaux vides. Alléluia. Lui qui était prêt à abandonner, lui qui était prêt à relâcher, je vois Pierre courir sur les rues de Jérusalem. Certainement à l'époque, comme il portait, je m'imagine, des robes. Avec sa robe, il était en train de courir et de se rendre au sépulcre. J'aimerais dire à quelqu'un qui voulait se décourager par rapport à sa marche avec Dieu, tu peux courir de nouveau parce que le tombeau est vide. Parce que le tombeau est vide. Pierre s'élève de nouveau. C'est un nouveau départ. Nous pouvons encore nous engager sur ce chemin. Nous pouvons encore poursuivre la lutte parce qu'il n'est pas resté au tombeau. Il est réellement ressuscité. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui voulait relâcher, tu n'as pas raison de relâcher parce que ton maître vit, il est vivant. La même chose avec les disciples sur le chemin de Emmaüs. Au fait, ils abandonnent et ils quittent Jérusalem parce qu'il n'y a plus rien à espérer. Rentrons chez nous. Nous espérions que... Ils commencent à conjuguer dans des temps difficiles. Nous espérions que... Alléluia. Ce serait lui. Découragement. Et ils sont en fait en train de quitter Jérusalem, la ville sainte. La ville de leur appel. Là où Jésus a fait ces miracles. En fait, pour dire, nous laissons ces choses de côté. Nous espérions que. Mais là, bien-aimés, quand ils ont appris et ils ont découvert que c'était Jésus le ressuscité, j'aime l'attitude. Alléluia. Ils ont fait un demi-tour. Et puis, ils vont rentrer, la Bible dit, et ils rentrèrent. Aussitôt, ils rentrèrent à Jérusalem. C'est-à-dire, un nouveau départ pouvait commencer. J'aimerais dire à quelqu'un qui voulait abandonner, n'abandonne pas, tu peux encore reprendre le chemin, parce qu'il vit. La résurrection nous parle d'un nouveau départ. D'un nouveau départ dans notre marche avec le Seigneur. Nous pouvons encore marcher avec lui et avoir l'attitude de Pierre. Après la résurrection, c'était comme une réanimation. La troisième vérité que nous trouvons dans cette étude, bien-aimée, c'est que la résurrection de Christ nous enseigne sur la renaissance de l'espoir dans le cœur. L'espoir renaît dans les cœurs. La résurrection de Christ nous enseigne sur la renaissance de l'espoir. Ils avaient perdu espoir. Commençons par l'histoire de Jacob que nous venons de lire, que j'aimerais relire encore, Genèse 45. La Bible dit, 45-25, ils montèrent de l'Égypte et ils arrivèrent dans le pays de Canaan auprès de Jacob, leur père. Ils lui dirent, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid parce qu'il ne croyait pas. Ils lui apportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour les transporter. C'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Et Israël dit, assez, Joseph mon fils vit encore. J'irai, je le verrai avant que je meure. Alléluia. Ce jour-là, quand on a amené la tunique de Joseph, Jacob a fait le constat, il a pleuré amèrement. Il a regretté son fils. Et toutes ces années, bien aimé, il est resté avec ce choc dans son cœur. Il a perdu espoir, certainement il se disait, et il rappelait à Dieu ce que Dieu avait dit à son fils par rapport à tous ses rêves. Et là, Jacob ne croit plus à rien. La Bible dit son cœur resta froid, comme aujourd'hui encore. Les gens qui viennent à l'église avec les problèmes, avec les difficultés, bien qu'on prêche, bien qu'on parle, bien qu'on prie, mais quand ils viennent, c'est juste pour remplir une formalité, parce qu'ils sont déjà habitués à aller à l'église. Allons-y simplement, allons-y seulement. Mais ils ne croient plus à rien à cause des problèmes, à cause des situations qui ont pris place dans le cœur. Ils ne croient plus à rien, plus d'espoir, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont perdu tout espoir. Et même le père de Joseph, quand on lui annonce que son fils était vivant et vivait encore, bien aimé, la Bible dit que son cœur resta froid. Mais j'aime la parole de Dieu. Quand il a entendu le message que Joseph lui a envoyé, et quand il a vu le char, la Bible dit, le cœur de Jacob se ranima. Je prie que l'espoir puisse renaître dans le cœur ce matin, parce que Joseph vit encore. Qu'est-ce plus encore, parce que Jésus vit encore. Ce problème n'a pas raison de te voler l'espoir. Cette maladie n'a pas raison de te voler cette espérance, bien-aimé. Tu peux croire encore parce que Jésus vit encore. Alléluia. Il a entendu les paroles de Joseph. Mais j'aime pour notre Seigneur. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si Joseph, les paroles de Joseph ont rallumé le cœur de Jacob, les paroles de Christ, bien plus encore, raniment nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pour toi qui as perdu espoir, tu rentres, tu subis, réfléchissant sur les problèmes, comme les disciples d'Emmaüs. J'aimerais te dire, l'espoir peut renaître parce qu'il est vivant. Le message de la résurrection, c'est un message d'espoir. Il le savait. Il savait que nous allons connaître des problèmes, des situations qui vont peut-être nous décourager. On en a connu dans la marche avec Dieu. On avait l'impression qu'on avait commis l'erreur de donner notre vie au Seigneur. Mais à chaque fois, nous nous rendons compte que quand nous sommes dans ces problèmes, c'est Jésus est vivant et il ne nous abandonne pas. J'ai dit à quelqu'un qui traverse ces moments, Jésus vit. Toi qui m'entends, on lit dans l'hôpital, Jésus vit. Toi qui as ces problèmes, ça te vole. Ton cœur devient froid, même quand on loue. Toi, tu es là, comme dans un congélateur. Tu regardes même ceux qui t'entourent. Il y a des gens comme ça. Et chaque dimanche, il est là. Ma prière est que le message de la résurrection ranime ton cœur. Tu peux ressentir encore cette ferveur et cette joie de marcher avec le Seigneur. Parce qu'il vit. J'aime ces cantiques. Parce qu'il vit. C'est super bon chant. Je n'ai rien à craindre. Les lendemains sont assis entre ses mains. Sadarabose. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Et l'éternité.
Alléluia. Nous avons raison. Ne désespère point, mon frère. Il vit, tu as raison de l'acclamer et de pousser des cris de joie parce qu'il vit. Que la situation du Congo ne te vole pas ton espoir. Que la conjoncture de la RDC, que la pandémie ne te vole pas ton espoir. Parce qu'il vit, ce n'est rien à craindre. Tu as raison d'espérer. Alléluia. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais tout cela, voici le troisième jour. Ils avaient perdu espoir. Mais quand ils ont constaté, bien-aimés, ces hommes sont retournés à Jérusalem. Quatrième vérité que nous avons dans ces textes, dans ces passages, enseignement sur la résurrection de Christ, c'est que la résurrection, quand c'est déjà quatrième, ok, la quatrième, c'est que la résurrection de Christ nous enseigne sur la confusion et la panique dans les camps de l'ennemi. Alléluia. Christ est ressuscité, bien aimé, c'est la confusion et la panique dans les camps de l'ennemi. Voyez un peu la scène avec l'histoire de Joseph. Ses frères qui l'ont vendu, c'était pratiquement la mort parce qu'avec cette tunique imbibée de sang, cette preuve, pour eux, Joseph était déjà mort, c'était fini pour Joseph. Et quelques années plus tard, des années, regarde comment Dieu fait les choses. Et puis, paf, la famine, et ils vont se retrouver en Égypte. Et là, quand ils se retrouvent en Égypte, c'est lui qui est en train de gouverner, c'est Joseph. Alléluia. Et j'aimerais pas lire, pour ne pas prendre trop de temps, en lisant cette histoire. Vous verrez comment est-ce que ses frères étaient confus. Ils avaient même peur. C'est Joseph que nous avons vendu. Imaginez un peu quelqu'un que vous avez fait du mal. Il a quitté ce travail à cause de vous. Il a perdu ses postes à cause de vous. Et puis, quelques années après, c'est lui qui revient comme le boss de la boîte. Imaginez un peu votre attitude. Imaginez un peu l'attitude de cet homme-là, de cette femme-là. Il serait en train de se gratter, même si ça ne tue pas. On se gratte quand même gratuitement. J'aimerais dire à quelqu'un bientôt là, Joseph vit encore. Alléluia. Il est croyant mort. Il est croyant mort. Et quand Joseph se présente, il fait d'abord semblant, mais après un moment donné, parce que c'était son sang, la Bible dit, il s'est révélé, il dit, c'est moi Joseph. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui t'ont enterré te verront bientôt, te présenter et dire, c'est moi Joseph. Le message de la résurrection, c'est la confusion et la panique dans les camps de l'ennemi. Des fois, je me mets à imaginer des choses que la Bible n'a pas écrites. C'est moi qui y pense. Hein. Imaginez un peu Lazare après 4 jours dans le tombeau. Il était l'unique garçon de sa famille. Certainement ses frères, ses sœurs qui étaient restés. Il y a Lazare. Tout le monde s'en a mis sur le parce que nous n'avons même pas un garçon ici. Les costumes, les vestes de Yann Lazare, donnons cela. Et puis 4 jours après, on voit Lazare qui se pointe. Je vois encore cet homme. On vient l'enterrer ce jour-là. Et puis il y a une incursion d'une armée étrangère. La Bible dit, ils ont jeté les cadavres. Et pour ces cadavres, heureusement pour lui, il est allé toucher les ossements du prophète Élisée. Il y a eu un miracle. L'homme ressuscite. Alors que les autres sont en train de fuir parce qu'il y a la guerre. Et lui aussi, il ressuscite. Il commence, alléluia, il emprunte le même chemin que ceux qui l'ont enterré. Imaginez la scène, c'est lui qu'on vient d'enterrer, il est derrière nous. C'est lui qu'on vient d'enterrer, il est derrière nous. J'aimerais dire à quelqu'un, il te croyait rester à la tombe, mais ils te verront te présenter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, il te croyait mort. Confusion dans les camps de l'ennemi. Je donne conseil à quelqu'un ce matin. Ne combats pas tes ennemis seuls. Fixe tes regards sur la croix parce qu'il a vaincu Satan. C'est ce qui se passe avec les souverains sacrificateurs de l'époque. Quand Jésus ressuscite, il y a la panique dans les camps de ceux qui l'ont crucifié. Le message de la résurrection a apporté la confusion et la panique dans ces camps. La Bible dit dans Matthieu 28, à partir du verset 11, pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la grande de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, ils ont même tenu un conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Mensonge. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons. Pourquoi l'apaiser? C'est-à-dire qu'il est troublé. Et nous tirerons des peines. Ils vont donner de l'argent. Propager la nouvelle qui n'est pas ressuscité. C'était donc la panique. Oui, bien aimé, l'enfer tremble. Les démons tremblent. À la résurrection de Christ. Vous savez ce qui s'est passé à la croix, à la tombe et à la résurrection? C'est que le diable avait réuni toute sa puissance et toute sa force pour en finir avec Jésus. C'est comme dans une armée, dans une guerre, dans un combat, où l'adversaire a épuisé toutes ses munitions. Il dit, je dois l'achever et je dois mettre fin à tout pour sa vie. Et là, le diable va finir toutes ses armes, ses munitions. Et puis, il est en train de laver ses armes. Premier jour, deuxième jour, il se rend compte que le type est ressuscité. Bon, j'ai les armes, mais je n'ai plus de munitions, donc je n'ai rien à faire. Ce que le diable est en train de faire à ce moment, c'est juste de nous faire peur. Mais il n'a plus rien, parce qu'il a déjà été vaincu. C'est comme un serpent qu'on a déjà coupé la tête. Vous savez, si quelqu'un nous faisait une sale blague, et que là, il nous jette un serpent avec 100 têtes, je pense qu'il y aura des gens qui vont sauter les murs ici. Jusqu'à ce que nous remarquions qu'il n'a pas de tête et certaines personnes vont se ressaisir. J'aimerais dire à quelqu'un, à chaque fois que le diable se présente, dis-toi que sa tête a déjà été écrasée. Panique dans les camps de l'ennemi. Nous voulons donc, bien-aimés, expérimenter la puissance de la résurrection. Nous voulons, dans notre marche avec Dieu, être des ceux qui ont compris, bien aimés, que Jésus ressuscité vit, que Jésus ressuscité c'est la victoire. Mais une question avant de chuter et de prier ce matin. Comment expérimenter la puissance de la résurrection? Comment entrer dans l'effectivité de cette victoire de la croix et de la résurrection? Je nous donne juste une vérité pour gagner le temps et nous allons prier parce que j'aimerais vraiment que nous puissions prendre même 5 à 10 minutes dans la prière. C'est que le Seigneur nous demande une chose. C'est ce qu'il dit à la sœur de Lazare. Dans son chapitre 11, le verset 39, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je paraphrase pour dire, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de la résurrection. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras cela s'accomplir. Ce que le Seigneur nous demande pour expérimenter la puissance de la résurrection alors que nous marchons avec lui, ce n'est rien d'autre que la foi. Alléluia. La foi, bien-aimée dans le Seigneur, croit à sa mort, mais aussi à sa résurrection. Oui, que ton cœur puisse se rallumer. La foi, bien-aimée, pour entrer dans la puissance de la résurrection. Dans Jean 20, on nous parle de cet homme de Thomas. Alors que Jésus ressuscité, la nouvelle s'est propagée et Thomas va être informé. Mais il va douter pour dire, non, moi, je ne croirai pas si je ne touche pas là où on a percé et là où on l'a cloué. Il était donc incrédule. J'aime ce que le Seigneur lui fait comme reproche quand ils se sont vus. Dans son chapitre 20, le verset 26, la Bible dit, 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouva avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées,
se présenta au milieu d'eux. Il dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois, mais crois, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Il faut croire à cette résurrection. Oui, mes frères et sœurs, la foi, bien-aimée dans le Seigneur, nous donne à expérimenter la puissance de la résurrection. Ne t'est-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans notre marche avec Dieu, nous devons faire comme ces femmes qui se sont réveillées très tôt le matin, le jour de la résurrection. J'aime l'attitude de ces femmes. Bien-aimées, alors qu'elles se lèvent pour aller embaumer le corps de Jésus, Elles se sont levées avec foi. Il y a une chose importante à souligner là-dessus. Elles savaient pertinemment bien que la tombe, devant la tombe, il y avait une grosse pierre. Et elles étaient incapables d'elles-mêmes de rouler cette pierre. La Bible dit, elles se posèrent la question. L'histoire, je pense, c'est dans Marc 16, commencé à partir du verset 3. Elles se disaient entre elles, qui nous roulera la pierre? Qui nous roulera la pierre? Bien que se posant cette question, ces femmes ne sont pas restées à la maison chez elles. Elles avançaient malgré elles. Elles avançaient et elles avaient la foi. Elles savaient que nous allons entrer dans cette tombe-là. Ne sachant pas comment, mais elles ne se sont pas arrêtées. Elles se disaient, nous y allons. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Qui nous roulera la pierre? Mais avec foi, elles avançaient. Et la Bible dit, de loin, elles virent que la pierre a déjà été roulée. J'aimerais dire à quelqu'un, bien que tu te poses des questions, marche encore par la foi, croyant que là devant, il y a espoir. Tu ne sais pas qui va t'ôter cette pierre-là, mais la marche avec j'avance vers le tombeau. Je sais qu'un miracle va se produire. Je ne sais qui va me rouler la pierre. Je ne sais qui va m'ouvrir cette porte. Mais une chose est vraie, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Quand ils arrivent à la tombe de Lazare, Jésus dit, ôtez la pierre. Image de l'incrédulité dans les cœurs. Ton problème avec toi, tu ne crois plus à cette guérison-là. Quand on t'a annoncé que c'était le cancer, c'est ton cœur qui est devenu foi. Mais ce matin, j'aimerais te dire, commence à ôter cette incrédulité dans ton cœur. Quelque chose peut se passer. Il dit à Marie, ôtez la pierre. Lui qui cherchait la vie de son frère, il va dire, non Seigneur, tu vois, il sent déjà. Ça fait déjà 4 jours qu'il est là. Jésus va dire à Marie, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dans ces problèmes, dans cette situation, parce qu'il vit, cette guérison est possible. Peu importe le nom de ta maladie. Ce matin particulièrement, j'aimerais prier pour ces cas de maladie. Peu importe. Je me rappelle de cette sœur alors que nous étions en prière. Pendant cette période de Pâques, elle a témoigné. Quelques jours avant, elle est venue avec un fichier d'échographie, elle devait être opérée. Elle avait une masse là au sein. Et là, ça fait quelques mois de mariage, 5 mois seulement de mariage. Elle devait subir cette opération. Pendant la prière, elle a senti quelque chose en elle. Elle dit, je ne sens plus cette chose. Et avant l'opération, elle devait refaire l'échographie. Quand on est allé refaire l'échographie, cette masse avait disparu. L'opération n'a pas eu lieu. Le ressuscité assis encore. J'ai dit à quelqu'un, avance avec foi. Jacob, tu peux croire encore ce matin. Joseph vit. C'est possible d'expérimenter la gloire de la résurrection quand on croit, bien-aimé. Les problèmes aujourd'hui, nous venons à l'église, mais nous ne croyons plus. On commence à conjuguer dans le passé. On commence à témoigner ce que Dieu a fait dans le passé. Mais le message de la résurrection, c'est un message d'actualité. Il agit encore aujourd'hui. Il est vivant et il agit encore ce matin. Alléluia. Croyons et désirons à expérimenter la puissance de la résurrection. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Joseph vit encore. Oui, Jésus vit. Alors que nous baissons nos têtes dans la prière. J'aime dire comme Paul, qui s'identifie à la mort et à la résurrection de Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce matin, l'une des conditions aussi pour expérimenter la puissance de la résurrection, c'est s'identifier à sa mort. L'apôtre dit, j'étais crucifié avec Christ. Ce matin, il nous invite à crucifier notre chair. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans passer par la mort. Avant de prier pour ton problème, pour ton cas, ta situation, expérimenter la puissance de la résurrection ce matin. Est-ce que tu fais partie de ce corps? Est-ce que tu as déjà donné ta vie? Est-ce que tu crois ce message de la résurrection? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu peux dire ce matin que j'ai été crucifié avec Christ? Quand Paul parle ici, c'est après. Lui qui même qui était persécuteur. Mais dans Galates, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Donc il s'identifie à sa mort. Ce matin, tu peux t'identifier à la mort de Christ en donnant ta vie à Jésus pour que tu puisses expérimenter la puissance de la résurrection. Avant que nous puissions prier pour les différents cas que nous avons. Tu veux dire, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'aimerais que ma chair soit crucifiée. Seigneur, ce matin, je crois au message de la résurrection. Je crois en toi, toi qui es mort et ressuscité. Que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Pour que quand nous allons prier ce matin, que cette gloire de la résurrection soit aussi ton partage. Tu vas simplement lever ta main droite là où tu es. J'aimerais prier avec toi et pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus? Merci. Soyez bénis. Merci. Oh Seigneur, merci. Oui, tu peux croire à ces messages. Merci mon frère. Tu peux croire à ces messages. Ne sois pas incrédule comme Thomas ce matin. À la croix, il a porté ton péché. Tu peux croire à ce message. Oui, merci mon frère. Seigneur, merci pour ces mains levées. Merci pour ces cœurs, Seigneur mon Dieu, que tu réchauffes ce matin, oh Dieu. Fais d'eux, Seigneur mon Dieu, une partie de ces corps. Pardonne leurs péchés, Seigneur, et restaure-les. Et que leur nom soit inscrit dans ces livres, livre de vie. Merci Jésus. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais demander à toute l'église de se lever. Nous allons prier pendant 2 à 3 minutes. Jésus vit encore. Alléluia. Oh bien-aimé, peut-être que ton cœur est froid comme le cœur de Jacob. Ce matin, le message de la résurrection peut encore ranimer ta foi. Tu peux encore croire, le Seigneur est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. J'aimerais que nous les chantions sans musique. Alléluia. Il est vivant, Jésus.
Il est vivant, Jésus.
Il est vivant, mon roi. Tu peux expérimenter la puissance parce qu'il vit.
Oh, Jésus. La main cachée, c'est Jésus. La main cachée, c'est toi, mon roi. Yangona koyemba Azana bomo. Oh, alléluia. Alléluia, Hosanna. Hosanna, na Yahweh. Shandara, bro, 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 bro. Na Yahweh. Na Yahweh.
Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu et dire, Seigneur, je voudrais expérimenter la puissance de la résurrection. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant? Est-ce que tu peux dire, je crois à la puissance de la résurrection. Quel miracle est possible ce matin? La guérison est possible ce matin. La guérison est possible ce matin. La délivrance est possible ce matin. Les ciels peuvent tomber ce matin. La bénédiction est possible ce matin parce qu'il vit. L'espoir peut renaître dans le cœur. Toi qui ne croyais plus à rien, l'espoir peut renaître ce matin. 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 L'espoir peut renaître. Oh, toi qui marchais tête baissée, ce matin, relève-toi parce qu'il vit. Toi qui voulais abandonner la foi. Yébrobobo, Santa Baba. Alléluia. Merci, Jésus.